Les matins de France Culture, en direct de Chicago, jusqu'à 9h.
Il est 7h23 en France et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, insensé mais pas inédit.
Oui, c'est en ces termes que le site de la chaîne américaine CNN commente ce matin la nouvelle tuerie de masse aux États-Unis. Il était 11h30 hier dans la petite ville de Sutherland Springs au Texas, un hameau rural d'à peine 400 âmes, lorsqu'un homme armé d'un fusil d'assaut et vêtu d'un gilet pare-balles est entré dans l'église en plein service religieux avant d'ouvrir le feu sur les paroissiens, faisant au moins 26 morts et une vingtaine de blessés d'après le premier bilan des autorités. Selon un témoin, les tirs ont duré une quinzaine de secondes. Une partie des fidèles a pu fuir vers la station essence. L'assaillant a ensuite été pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil, provoquant sa fuite. Un peu plus tard, l'assaillant sera retrouvé mort dans son véhicule sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Même si son nom est déjà sorti dans les médias, aucune information officielle n'a encore été donnée sur les motivations du tueur. Devin Kelly, 26 ans, précise toujours la chaîne américaine, serait un ex-militaire renvoyé de l'armée de l'air après un passage en cour martiale en 2014. On n'en saura pas davantage en revanche ce matin sur ce nouveau carnage, si ce n'est, rappelle l'ensemble des médias américains, qu'il s'agit là de la fusillade la plus meurtrière qu'ait connue un lieu de culte aux États-Unis et la quatrième de l'histoire récente du pays après les massacres de Las Vegas, Orlando et Virginia Tech. Insensé mais pas inédit, c'est également l'impression qui se dégage ce matin après une nouvelle fuite de données géante qui depuis hier ébranle les paradis fiscaux. 18 mois après les Panama Papers portant sur la fraude fiscale, la nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation se nomme Paradise Papers. Alors a priori, rien de nouveau sous le soleil de l'optimisation fiscale, en levant une fois de plus le voile sur les mécanismes sophistiqués dont profitent les multinationales et les grandes fortunes mondiales. Cette nouvelle enquête, résume le magazine Quartz, ne nous apprend au fond qu'une seule chose, que l'inégalité ne cesse d'augmenter entre les riches et les autres. Alors pour être tout à fait exact, les noms de plusieurs grands groupes émergent tout de même, Twitter, Apple, Nike, mais aussi le géant suisse des matières premières, Glencore, et puis des personnalités parmi les plus remarqué, on retiendra tout d'abord la reine d'Angleterre, laquelle aurait, selon The Guardian, placé une dizaine de millions de livres d'avoir dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes. Au Canada, cette fois-ci, là, c'est un milliardaire qui aurait placé 60 millions de dollars dans une société offshore. Or, si l'affaire commence à faire grand bruit, relève de son côté le journal de Toronto Star, c'est parce que l'homme n'est autre qu'un ami de Justin Trudeau, responsable notamment de la collecte de fonds lors de la campagne électorale de 2015 pour le compte du Parti libéral, ce qui évidemment s'avère pour le moins encombrant pour un Premier ministre élu sur des promesses de réduction des inégalités et de justice fiscale. Enfin, la dernière personnalité citée n'est autre que le secrétaire d'État américain au commerce, Wilbur Ross, l'un des poids lourds du gouvernement Trump, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars, soit à peine moins que celle du président. L'homme jouit d'une réputation de businessman intraitable. Les médias américains voient d'ailleurs en lui l'âme sœur du président, la clé de voûte en somme de cette administration dominée par des hommes d'affaires. Or, selon The New York Times, le ministre aurait gardé des participations dans une société de transport maritime ayant des liens d'affaires étroits, non seulement avec un oligarque russe sanctionné par le Trésor américain, mais aussi avec le mari de la plus jeune fille de Vladimir Poutine, ce qui pose bien évidemment la question des conflits d'intérêts, d'autant plus que le mandat de Donald Trump reste empoisonné, vous le savez, par les enquêtes sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et la Russie. Improbable, mais pas inédit, toujours et encore ce matin, s'agissant cette fois-ci de la diplomatie du Golfe au cœur de la bonne entente entre Donald Trump et Shinzo Abe. Lors de la première étape de sa tournée asiatique, le président américain s'est adonné hier à son sport favori en compagnie du premier ministre nippon. Une diplomatie qui n'est pas sans rappeler celle entre le grand-père de Shinzo Abe et le président américain Eisenhower. À l'époque, déjà, rappelle le temps, les deux dirigeants avaient mis en scène une partie de golf sur un parcours du Minnesota. C'était en 1957. Alors cette fois-ci, entre deux potes, Donald Trump et Shinzo Abe, lesquels ont construit une relation personnelle et amicale, se félicite l'Asahi Shimbun. On dit notamment souhaiter plus de réciprocité dans les relations commerciales entre leurs deux pays. Puis le Japon a dit par ailleurs soutenir la politique de Donald Trump consistant à maintenir toutes les options sur la table face aux provocations de la Corée du Nord. Enfin, après le swing de Donald Trump, ce matin, les médias avaient choisi de scruter un autre mouvement de bassin du président américain. Comment allait-il saluer l'empereur du Japon? Il faut dire que les salutations entre les présidents américains et les empereurs japonais n'ont jamais été simples. Elles ont déjà fait trébucher 3 des 4 derniers présidents américains. La question la plus importante, explique ce matin le site d'ABC, est de savoir si le président doit s'incliner ou non. Dans la culture japonaise, le salut est un signe de respect et d'appréciation. Et plus l'arc de la taille est profond, plus le respect et la gratitude sont manifestes. En l'occurrence, plier le torse d'environ 45 degrés est l'expression la plus forte de profonde gratitude. C'est notamment ce qu'avait fait le président Obama en 2009, un geste que les critiques avaient à l'époque qualifié de faible, alors même que la Maison Blanche avait expliqué qu'il s'agissait simplement de respect. Bien finalement, notre The Caller ce matin, vidéo à l'appui, Donald Trump, lui, a opté pour une forte poignée de main.